livre Didier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Pretoria accueille le 25e sommet de l'Union africaine axé sur l'autonomisation des femmes et le développement. À Dakar, au Sénégal, lancement par ONU Femmes de son rapport sur le progrès des femmes dans le monde.
Le rapport soulève plusieurs défis sur le lieu de travail, par exemple. L'écart salarial, où les femmes touchent beaucoup moins que les hommes, même pour le travail égal.
On entendra la représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes, le docteur Joséphine Odeira. Les pays africains doivent signer en marge du sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte l'acte de naissance de leur futur marché commun. Mais tout d'abord, la société civile se dit prudemment satisfaite de l'issue du sommet du G7.
C'est très intéressant. Ce sont les pays membres de l'Union européenne et du G7, donc les membres européens du G7, qui se sont engagés à allouer 0,7% de leur richesse nationale à l'aide publique au développement. Et c'est pour la toute première fois qu'ils affirment cet engagement dans un communiqué du G7.
Frédérique Rodeux, directrice de l'ONG One France, reviendra sur les engagements pris par le G7 en faveur du développement. La société civile satisfaite à l'issue du sommet du G7, les chefs d'État s'étant mis d'accord pour contribuer à l'éradication de l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Les dirigeants des 7 plus grandes puissances industrialisées se sont également entendus sur des initiatives visant à renforcer l'autonomisation des femmes et des filles et réduire de 500 millions le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition. Néanmoins, souligne Frédérique Rodeux, directrice de l'ONG One France, pour ne pas rester vains, ces engagements devront être assortis de financements adéquats. On écoute Madame Rode.
C'est la première fois que les chefs d'État du G7 se donnent cette ambition de contribuer à la fin de l'extrême pauvreté d'ici à 2030. C'est une ambition qu'on partage bien évidemment, qui est ambitieuse mais tout à fait réaliste. Mais bien évidemment, cette ambition ne vaut rien si les chefs d'État ne mettent pas les moyens adéquats pour y parvenir. Les chefs d'État également réaffirmé leurs engagements d'aide au développement. Et très important aussi, ils ont reconnu que l'aide vers les pays les moins avancés est totalement inadéquate et qu'il faut absolument l'augmenter. Par contre, ce qu'il faudrait maintenant, bien évidemment, c'est concrétiser ces engagements et au plus vite, parce qu'il nous reste qu'un mois jusqu'à la conférence d'Addis Abeba qui va se tenir donc la mi-juillet et qui portera sur le financement du développement jusqu'à 2030. Et ça sera l'occasion pour les chefs d'État du G7 de concrétiser les promesses qu'ils viennent de faire.
Les pays du G7 ont pour objectif notamment l'allocation de 0,7% de leur revenu national à l'aide au développement. De ce côté-là, est-ce qu'il y a des progrès ?
C'est très intéressant. Ce sont les pays membres de l'Union européenne et du G7, donc les membres européens du G7, qui se sont engagés à allouer 0,7% de leur richesse nationale à l'aide publique au développement. Et c'est pour la toute première fois qu'il affirme cet engagement dans un communiqué du G7. Donc, dans ce sens-là, c'est un communiqué historique. Mais bien évidemment, cette promesse ne vaut pas grand-chose sans échéance précise. Et le communiqué ne précise pas d'échéance. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les pays tiennent leurs promesses d'ici à 2020 pour vraiment pouvoir contribuer réellement à cet objectif qui est la fin de l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Et on a aujourd'hui un pays membre du G7. C'est le Royaume-Uni qui tient la promesse des 0,7, mais les autres, malheureusement, sont toujours très loin. Par exemple, l'Allemagne vient d'augmenter son aide au développement, mais n'alloue que 0,41% de sa richesse nationale à l'aide internationale. La France, c'est encore pire, c'est seulement 0,36. Et le Canada et le Japon et l'Italie sont encore plus loin de cet objectif. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'on reconnaît, disons, cette affirmation historique de l'engagement dans le communiqué même. Mais là encore, il faut concrétiser cet engagement. Jusqu'à quand est-ce que les pays vont le tenir ?
Que pense One France des initiatives visant à renforcer l'autonomisation des femmes et des filles ?
Alors là encore, le communiqué se penche pour la première fois sur un sujet d'une telle importance. C'est la première fois que le G7 adopte une initiative en faveur des femmes, et notamment des femmes dans les pays en développement, pas seulement des pays du G7. Donc, encore une fois, un pas dans la bonne direction, mais qui doit être concrétisé. Ils veulent surtout soutenir la formation professionnelle des filles et des jeunes femmes. C'est en effet très important, mais il y a bien sûr d'autres domaines aussi dans lesquels il faut soutenir les femmes. Quand on parle de formation professionnelle, n'oublions pas que 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes. Donc, dans l'éducation plus largement, il y a des besoins tellement importants qu'il faut maintenant continuer dans cette lancée, concrétiser ce qui va être fait pour les filles et les femmes et l'étendre aussi à d'autres domaines que la formation professionnelle.
Le G7 a également mis l'accent sur le changement climatique qui ne peut manquer d'avoir un impact économique sur les pays en développement.
Beaucoup ont parlé de ce sommet comme le sommet climat. Et bien évidemment, c'est très important que le G7 se penche sur cette question. Et bien évidemment, il faut trouver des solutions pour faire face aux conséquences du changement climatique. Mais le changement climatique ne doit pas faire oublier qu'il y a d'autres défis mondiaux, notamment pour les pays les plus pauvres. Les plus pauvres sont ceux qui sont le plus frappés par les conséquences du changement climatique, mais bien évidemment aussi le plus frappés par l'extrême pauvreté et la faim. Donc nous, ce qu'on demande au G7, c'est d'avancer sur tous les fronts et ne pas en oublier un dans cette année qui est l'année 2015 et qui va devoir être une année historique aussi pour la lutte contre l'extrême pauvreté et les injustices.
Frédéric Rodeux, directrice de One France, elle était jointe en France. Ici Washington, Camille Grosdidier pour vous présenter le magazine de l'économie. Pretoria accueille depuis dimanche le 25e sommet de l'Union africaine. Ce sommet a le même thème que celui du dernier sommet tenu en janvier à Addis Abeba, à savoir année de l'autonomisation des femmes et du développement. Les femmes constituent plus de la moitié de la population de l'Union africaine et elles représentent 75% de la main-d'œuvre agricole, a rappelé l'ambassadeur zimbabwéen Albert Ranganai Chimbindi. Les dirigeants africains se penchent également sur les problèmes d'infrastructure. Le point avec Lionel Gaïma.
Ce sommet conserve pour thème celui du sommet de janvier 2015, à savoir l'année de l'autonomisation de la femme et du développement vers l'agenda 2063 en Afrique. Il est présidé par le Zimbabwe, qui assure la présidence de l'Union africaine en 2015. Pour la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Maite Nkoana Mashabane, l'éradication de la pauvreté reste la priorité des participants.
It's going to take our will to...
Il faudra avoir la volonté de retrousser nos manches, de tirer sur nos chaussettes, en particulier les jeunes, et d'œuvrer à la prospérité du continent et à l'éradication totale de la pauvreté grâce à une transformation économique radicale.
L'Afrique se développe rapidement, mais de l'avis des experts, les infrastructures du continent, routes, réseaux électriques notamment, laissent beaucoup à désirer et entravent la croissance. Lors de l'édition africaine du Forum économique mondial qui s'est tenue au Cap début juin, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD a d'ailleurs annoncé la création des plateformes d'investissement pour soutenir les projets d'infrastructure et d'agriculture.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. À Dakar, au Sénégal, le directeur exécutif adjoint d'ONU Femmes, Yannick Glemarek, a procédé lundi au lancement du nouveau rapport d'ONU Femmes intitulé « Le progrès des femmes dans le monde 2015-2016, transformer les économies, réaliser les droits ». Ce document évoque l'élaboration de politiques en vue de transformer les économies et de concrétiser l'égalité des femmes. Pour plus de détails, on écoute la représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes, le docteur Joséphine Odera.
Le rapport soulève plusieurs défis sur les lieux de travail, par exemple. L'écart salarial, où les femmes touchent beaucoup moins que les hommes, même pour le travail égal. Les femmes, pour la plupart, gagnent 24% de moins que les hommes dans le monde entier. Si on prend quelques exemples en Afrique de l'Ouest, le Cameroun, l'écart s'élève à 39%, alors qu'au Mali, c'est à 63%. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une discrimination contre les femmes. Il y a d'autres obstacles qui se posent. Selon les chiffres qu'on dispose, 75% des femmes se trouvent dans le secteur informel. Et là, c'est un travail qui n'a pas de protection sociale, où les rémunérations sont très faibles, où il y a même l'insécurité au niveau de la personne même, parce qu'il y a du harcèlement sexuel et d'autres dans le travail informel. Il y a d'autres aussi, d'autres défis qui se posent au niveau du travail, par exemple du travail domestique. Et là, on nous fait une plaide pour les emplois décents.
Pour mieux protéger les femmes dans le travail, le rapport d'ONU Femmes préconise un mélange de mesures économiques et sociales grâce auxquelles les gouvernements pourraient justement promouvoir et protéger leurs droits.
Tout à fait d'accord. Si on prend l'exemple du travail domestique, là, il y a la convention sur le travail domestique que certains pays ont signé, ont adopté, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ratifié la convention. Par contre, la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme est presque à 90% signée et ratifiée. Mais c'est la mise en œuvre de cela. Mais qu'est-ce que cela donnerait aux femmes comme bénéfice? D'abord, si certains travaux sont reconnus comme importants, si ce travail devient visible, les femmes seraient mieux rémunérées, les femmes auraient de la protection sociale, ou bien les femmes pourraient aussi bénéficier des allocations ou bien des bourses familiales. Ça, c'est un travail de gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des politiques sociales appropriées et adaptées aussi aux besoins des femmes. Il y a aussi le cadre macroéconomique. Et là encore, c'est un travail de gouvernement de mettre en place des politiques macroéconomiques qui répondent aux besoins des femmes et à la contribution des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans leur foyer, mais ce travail n'est pas reconnu. Les femmes qui travaillent comme ça ne verront jamais, s'il n'y a pas de changement au niveau des politiques, leur travail compté dans le PIB, par exemple.
Au plan des services sociaux, quelles sont certaines des mesures que pourraient prendre les gouvernements?
Il y a plusieurs choses que le gouvernement pourrait faire. D'abord, c'est la politique de protection sociale. Et ça, c'est très important. Parce que là, même si les femmes se trouvent dans des conditions où elles ne peuvent plus travailler, elles auraient au moins une protection. Il y a aussi, j'ai soulevé ceci, les bourses familiales ou bien les pensions retraite qui pourraient assurer à des femmes un avenir plus sécurisé. Parce que sinon, les femmes travaillent dans des situations très précaires lorsque leur travail n'est pas reconnu, lorsque leur travail n'est pas valorisé. Et je peux vous citer l'exemple des femmes dans le commerce transfrontalier.
Oui.
Quand les femmes essaient de traverser les frontières, là, juste pour traverser, parfois elles sont obligées de payer des sommes qui ne sont pas officielles. Elles sont soumises à toutes sortes de pratiques non officielles. Je peux dire parfois des pratiques de corruption. Elles sont aussi assujetties au harcèlement sexuel. Et ça, on retrouve non seulement dans cette région, mais dans beaucoup de régions dans le monde. Parce que c'est un travail qui n'est pas du tout protégé. Alors, si le gouvernement pourrait aussi faciliter et appuyer le commerce informel transfrontalière pour donner plus de sécurité aux femmes qui mènent cette activité, ça augmenterait non seulement la rémunération des femmes, mais aussi leur sécurité.
On écoutait la représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes, le docteur Joséphine Odera. Elle était jointe à Dakar. Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Ici Washington, on enchaîne avec un aperçu de l'économie américaine en compagnie de Michel Joseph.
Les chefs d'entreprise américains un peu plus pessimistes pour l'évolution de l'économie des États-Unis cette année. C'est ce qu'a montré lundi l'enquête trimestrielle de la Fédération patronale Business Roundtable. L'estimation du produit intérieur brut, PIB, du premier trimestre a été revue à la baisse et l'enquête montre que les patrons tablent en moyenne sur une croissance de 2,5% du PIB sur l'ensemble de 2015. Le patronat a également plaidé pour l'adoption par le Congrès d'une réforme de la fiscalité et l'octroi au président Barack Obama de la Trade Promotion Authority, pouvoir qui permettrait à la Maison-Blanche d'accélérer les négociations sur les accords commerciaux internationaux afin d'encourager l'investissement. Toujours concernant l'économie américaine, le Fonds monétaire international a conseillé à la Banque centrale américaine, la Fed, de ne pas relever ses taux d'intérêt directeurs avant 2016 en l'absence de signes d'inflation. Dans son examen annuel de l'économie américaine, le Fonds estime qu'une hausse des taux, qui serait la première en presque 9 ans, ne devrait intervenir qu'au premier semestre 2016. Le comité monétaire de la Banque centrale américaine et sa présidente, Janet Yellen, envisage un relèvement des taux cette année.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les pays africains devraient signer mercredi 10 juin, en marge du sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte, l'acte de naissance de leur futur marché commun. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ce traité de libre-échange qui englobera 3 blocs régionaux qui couvrent la moitié orientale du continent a été discuté lors du forum économique régional qui s'est tenu la semaine dernière au Cap, en Afrique du Sud. Sa signature vient couronner 5 années de négociations et va créer un cadre pour aller vers des tarifs douaniers préférentiels. Cette première étape de signature sera l'acte de naissance de la tripartite, un grand marché commun unissant 26 des 54 États africains, rappelle l'agence France-Presse. L'ensemble regroupera le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, la COMESA, la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Il s'agit là de plus de 625 millions d'habitants. Viennent s'ajouter à ces 3 blocs régionaux dénommés la tripartite, l'Afrique du Sud et l'Égypte, les 2 économies les plus développées du continent, mais aussi des pays émergents comme l'Éthiopie ou le Kenya. Actuellement, seuls 12% environ des échanges commerciaux en Afrique ont lieu entre les pays du continent.
Ici Washington, et pour finir cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie, la révision constitutionnelle, la paix et la sécurité au Mali, la construction des routes et des infrastructures, tels sont certains des points essentiels de la déclaration de politique générale effectuée par le Premier ministre malien. Modibo Keïta a présenté un document qui touche à tous les segments de la société malienne. Les débats suivront jeudi prochain avant l'adoption de la déclaration par les députés maliens. D'autres précisions avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Devant les élus de la nation, le Premier ministre a décortiqué les documents que les membres du gouvernement doivent traduire en actes concrets dans les jours et mois à venir. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali.
Nous avons choisi de bâtir la présente déclaration de politique générale autour de 3 axes. Visant premièrement à assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans un environnement de paix. Deuxièmement, améliorer les conditions de vie et d'existence des populations. Troisièmement, promouvoir la justice et l'équité.
Pendant 1 heure de temps, le Premier ministre a touché à tous les segments de la société malienne. Construction de routes, d'infrastructures de développement, mais aussi la situation sécuritaire dans le nord du Mali, avec en toile de fond la situation sur le terrain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.